Bien, je vais vous parler aujourd'hui de l'altermondialisme, des défis de l'altermondialisme au XXIe siècle, en insistant plus particulièrement sur la question de l'individu. Alors, ce que je vais faire inhabituellement, c'est que la conférence va être encadrée par deux chansons qui vont passer, donc une d'ici quelques secondes. C'est des chansons d'une rappeuse altermondialiste marseillaise d'origine argentine, Kenny Arcana. Donc, qui est une jeune rappeuse hein, qui a une vingtaine d'années, qui commence à être assez connue sur la scène rap française. Et il y a peu d'artistes engagés de cette façon dans un mouvement comme le mouvement altermondialiste. Elle est issue des quartiers populaires de Marseille. Et la première chanson, c'est les textes dont vous sont distribués. Parce que le rap, c'est pas forcément, quand on connaît pas, c'est pas forcément facile à suivre une première fois. Est intitulé Entre les lignes coulées au sol. C'est l'album de 2006, Entre ciment et belle étoile. Et puis, la deuxième qui viendra à la fin de la conférence, c'est Les chemins du retour, qui est tiré du dernier album d'avril 2008, Désobéissance. Donc, on peut passer le premier titre, Entre les lignes clouées au sol.
Les ailes brûlées, clouées au sol et la tête vers le ciel, vers la splendeur de l'éternel ailleurs, cherchant l'étoile qui fait tourner la roue, loin de ce quadrillage où même l'air ne peut être libre comme l'art, comme la pureté d'un geste, la profondeur d'une pensée illimitée quand l'opinion est HS, sans mâcher mes mots, voir largesse, bargesse, la frontière si fine entre folie et sagesse, réflexion pesante, cheminement infini en quête de l'archétype, mais mon âme est souffrante, mémoire passée, qui voudrait voir mon espoir cassé, où est la perche, maintenant j'en ai assez, je me noie, j'ai perdu ma barque quand j'ai vu que celui qui la conduisait n'était autre que mon ennemi, mais comme quand la nuit tombe, l'océan et le ciel ne forment qu'un, alors j'ai pu voir l'espace infini aux libertés, ma chère amie, ta présence est abstraite, vu que c'est dans ma tête que j'ai appris à te connaître aux libertés, imbibe mon encre et ne quitte plus mes pensées, plus d'oxygène dans un monde limité où la vérité se cache en nous, clairvoyance, intuition, mais avons-nous idée de tout ce qui se cache en nous, c'est rire contre l'arme, l'ego contre l'âme et à plus haute échelle, je dirais illuminati contre l'homme, époque cruelle dénuée de sens, dur de voir clair. Derrière les mascarades et les buées de sang, je me sens comme perdu au cœur d'une immense machine qui n'en a jamais eu et qui nous dénature. Mauvais pressentiment quand je pense au futur, les yeux ouverts, l'horreur tente de me les crever, mais le plus dur reste à venir le jour où ce sera trop tard, où la surveillance sera absolue et nos prénoms seront des codes barres. Tout va de plus en plus vite, car pour eux le temps c'est de l'argent, alors on oublie de vivre, c'est navrant, nous se craint vite que rien ne comblera, car l'ombre s'est emparée notre monde, mais on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on veut bien nous laisser voir. Donc ouais, on est aveugle, ça me fait mal au cœur, mais regarde, même nos âmes bug au fond, nous c'est tourment, car dehors ces tourments soumis à notre sort, on oublie que la vie est mouvement, que la force est issue d'un idéal ou d'une volonté transcendante, où les schémas établis, que les barrières sont dans nos crânes, qu'on est seul à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s'émouvoir, trop porté sur l'extérieur et à force vouloir être comme tout le monde, faisons quelqu'un, en fin de compte, on devient ce qu'on nous montre, au lieu d'être ce qu'on est, pourtant ce mode de vie fait mal, mais on se laisse cogner, on subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Alors je ferme les yeux pour ressentir la lueur, pouvoir faire le vide en moi afin d'être réceptif. Au bonheur, car changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Car changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même.
Bien, donc dans d'autres de ces textes, mais notamment dans ce texte, Kenny Arcana en fait pose la question de la tension entre en fait le pôle collectif et le pôle individuel. Et peut-être que une des questions importantes de la galaxie altermondialiste, c'est de recomposer autrement les rapports entre l'individuel et le collectif, contrairement aux précédents mouvements d'émancipation qui l'ont précédé. Alors, aujourd'hui, ça pose un problème tout particulier parce qu'il y a le développement de ce qu'on appelle l'individualisme contemporain, sur lequel je reviendrai. Cet individualisme contemporain, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il n'est pas que négatif, il n'est pas que positif. À la fois, il offre des nouvelles marges de manœuvre et d'autonomie aux individus par rapport aux sociétés traditionnelles, et en même temps, il laisse place parfois à des pentes narcissiques. Et donc, ça pose tout particulièrement dans ce cadre de nos sociétés individualistes, sur lesquelles, à mon sens, on ne peut pas revenir. Il y a souvent des gens qui ont la nostalgie d'un autre type de société par rapport auquel on ne peut pas revenir. Ça pose la question de l'articulation entre l'individuel et le collectif de manière différente. Et il me semble donc que, et ce sera mon propos principal, que le traitement de l'individualité en rapport avec des questions de solidarité collective, des justices sociales, est sans doute un des défis majeurs de cette galaxie altermondialiste émergente. Alors, mon exposé aura deux grandes parties. Dans un premier temps, je vais essayer de tracer de manière assez générale les défis actuels de la galaxie altermondialiste, en soulignant d'abord, et je m'expliquerai un peu là-dessus, en soulignant les tonalités mélancoliques de la galaxie altermondialiste. Pourquoi l'altermondialisme a un rapport avec la mélancolie? Et dans un deuxième temps, je me centrerai sur la question du traitement de l'individualité. Alors, d'abord, la question des défis de la galaxie altermondialiste et pourquoi elle a un rapport particulier avec la mélancolie. Alors, pour l'instant, l'altermondialisme, c'est quelque chose qui renvoie à des potentialités. C'est-à-dire que moi, je parle plus facilement de galaxie plutôt que de mouvement, avec l'idée qu'il y aurait quelque chose d'unifié là-dedans. Si on veut rappeler quelques dates symboliques qui ont jalonné, c'est relativement récent comme mouvement. Campagne internationale contre l'alcool multilatéral sur les investissements, l'AMI, c'est avril-octobre 1998. La création d'Attaque France, c'est juin 1998. Les manifestations de Seattle contre la conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est décembre 1999. Le premier forum social mondial à Porto Alegre, c'est janvier 2001. Donc, c'est un mouvement relativement récent qui naît à la fin des années 90, en France et dans le monde, dans différents secteurs du monde. Quelque chose qu'on appelle souvent un mouvement des mouvements, puisqu'il se signale par une grande hétérogénéité qui oblige à penser autrement le rapport entre ce qui est commun à tous ces mouvements et la diversité. Alors, il y a des associations type ATTAC, il y a des syndicats de salariés, il y a des groupes écologistes, il y a des organisations de paysans, il y a ce qu'on a appelé la Marche mondiale des femmes en 2000, il y a les collectifs des 100, donc sans emploi, sans papier, sans logement, sans terre, il y a des ONG humanitaires, il y a des défenseurs des droits humains, il y a des expériences de démocratie participative, il y a des initiatives, disons, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, il y a des partis de gauche et d'extrême gauche, donc tout ça, c'est la galaxie altermondialiste. Donc c'est extrêmement hétérogène. C'est sans doute un des mouvements sociaux les plus hétérogènes donc, dans l'histoire des mouvements sociaux. C'est pour ça que je préfère de parler de galaxie pour indiquer cette diversité. Alors, mon hypothèse, c'est que cette galaxie altermondialiste est susceptible d'elle le creuser d'une nouvelle politique d'émancipation au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que j'appelle émancipation? L'émancipation, c'est un terme qui prend sens pendant les Lumières du XVIIIe siècle. C'est l'idée d'un arrachement individuel et collectif aux tutelles, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire aux dominations, aux autres. Pourquoi ? Pour avoir une plus grande autonomie individuelle et collective. Donc, ça serait ça l'émancipation, s'arracher aux formes de tutelle, de contrainte, de dépendance, d'oppression, pour construire une plus grande autonomie individuelle et collective des groupes humains. Il a existé différentes façons de concevoir l'émancipation, disons, depuis qu'on parle d'émancipation, au moins depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, depuis la Révolution française et depuis la Révolution américaine. Alors, pourquoi il y a une mélancolie altermondialiste? Parce que beaucoup d'espérances de transformation du monde ont échoué. L'espérance émancipatrice est bien obligée de constater que si on prend simplement la naissance du capitalisme à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle dans le monde. Et si on prend les premiers mouvements qui veulent construire une société émancipée différente du capitalisme, dès le début du XIXe siècle, donc ça fait presque deux siècles, ça fait presque deux siècles que ça échoue. Donc c'est pas rien, deux siècles d'échecs. Alors pour des raisons diverses, il y a des échecs sympathiques, il y a des échecs antipathiques. L'échec anarchiste est sympathique parce qu'il n'a pas tué grand monde. L'échec communiste avec des millions de morts est beaucoup plus antipathique. Mais au bout du compte, tout le monde a échoué. Tout le monde. À construire de manière slab une société émancipée qui soit différente de la société capitaliste. Bon, tout le monde. Alors, c'est pour ça que, d'une certaine façon, ça donne des couleurs mélancoliques au mouvement altermondialiste. Cette dimension mélancolique, qui est d'une certaine façon aussi la trace de l'échec, et peut-être qu'il ne faut pas oublier l'échec. Il y a toujours dans les mouvements sociaux, il y a ceux qui disent ah ben, on va repartir, et on fait comme si on n'avait pas échoué. Et donc on peut faire maintenant, ben, on commence, le 21e siècle commence, on fait comme s'il n'y avait pas des siècles d'échec, et on repart comme avant. Bon. Non, la mélancolie, elle n'oublie pas la trace de l'échec, parce que si ça a échoué, c'est qu'il y a des problèmes. C'est que ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas simplement les adversaires, parce que les adversaires, s'ils étaient forts au début du 19e, pourquoi ils seraient moins forts au 21e siècle? Bon. Donc ça, la mélancolie, ça suppose de garder la trace, le souvenir de cet échec. Et donc ça ne peut pas construire un mouvement social sur la base d'un optimisme béat. Bon. Alors, il y a cet échec structurel, massif, et puis il y a, si on vient plus proche de nous, si on prend un des grands mouvements, un espoir émancipateur en France et dans le monde, le plus récent, mai 68, on a fêté récemment les 40 ans en France, qu'en reste-t-il? En fait, les travaux sociologiques, je renvoie à un ouvrage important de sociologues Luc Boltanski et F. Schiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, qui montre comment l'espérance émancipatrice de 68 a servi à réorganiser, à travers le néo-management, le capitalisme. A servi de ressource pour réaménager le capitalisme. Donc finalement, l'espérance émancipatrice a même servi à renouveler l'oppression, à relancer la machine capitaliste qui était un peu essoufflée. Bon. Et donc ça aussi, ça renforce la dimension mélancolique. Que ce soit les deux siècles d'échecs de tentatives de construire une société non capitaliste émancipée, ou que ce soit les récupérations néo-capitalistes de mai 68, il y a une humeur mélancolique par rapport aux mouvements sociaux émancipateurs. Alors, cette mélancolie, ce n'est pas la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est les personnes qui regardent toujours dans le rétroviseur. Évidemment, si on est en train de conduire et on regarde tout le temps dans le rétroviseur, on risque l'accident. Et donc, il y a des gens qui sont nostalgiques, d'ailleurs, qui ont une vision de ce qu'était le passé assez éloignée de ce que nous montrent ce qu'était le passé les historiens, en général. Assez embellie, disons, et avec l'idée que avant, c'était bien, c'était mieux avant, et puis maintenant, c'est la dégradation, simplement. Bon. Donc ça, c'est la nostalgie. La mélancolie, elle n'est pas comme ça. On peut même penser qu'il y a une radicalité mélancolique. C'est-à-dire que la radicalité mélancolique, c'est qu'on n'oublie pas les blessures et les faiblesses du passé, mais pour repartir, pour construire un autre avenir. Ce n'est pas quelque chose qui tourne le dos à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui regarde dans le rétroviseur, simplement, la mélancolie. Il y a une très belle phrase qui exprime bien ça dans une chanson de Charles Aznavour, une vieille chanson, 71, qui s'appelle « Non, je n'ai rien oublié ». Et à un moment donné, c'est l'histoire de deux personnes qui ont été séparées, qui auraient dû se marier, mais qui ont été séparées par leurs parents, et qui se retrouvent par hasard. Et Aznavour dit « Et mon passé revient du fond de sa défaite ».« Et mon passé revient du fond de sa défaite ». C'est-à-dire, c'est ça la mélancolie radicale. C'est pas l'oubli du passé, c'est pas l'oubli de la mémoire, mais c'est la possibilité que, même à partir du passé, on rebondisse vers la possibilité d'un autre avenir. Et c'est ce que dit Kenny Arcana dans le deuxième album, celui qu'on n'a pas encore entendu, Désobéissance, où elle dit « Le nouvel ordre mondial a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir ». Il y a un rapport entre la mémoire et l'avenir. Et la mélancolie, elle a à voir avec la mémoire et la mélancolie ne peut pas se contenter simplement d'une vision nostalgique. elle s'en sert pour rebondir autrement dans l'avenir. Et donc, il y a quelque chose comme une alliance mélancolique possible entre le passé qui a échoué, le passé qui a été humilié, le passé qui a perdu, d'une certaine façon, et puis les possibilités futures. Et qui garde les traces quand même des échecs du passé. Et pas que des échecs, si on prend la question du stalinisme, c'est les monstruosités du passé. C'est-à-dire comment l'émancipation a produit la barbarie, le communisme stalinien. C'est-à-dire une forme de barbarie qui est peut-être supérieure à la barbarie capitaliste. Donc, c'est ça la mélancolie radicale, c'est se projeter dans l'avenir, mais en prenant appui sur le passé, mais pour ouvrir la possibilité d'un autre avenir. Et c'est une question, disons, centrale pour le mouvement altermondialiste qui fait renaître au niveau international, peut-être sans doute plus que d'autres formes internationales par le passé, puisque maintenant c'est présent sur la plupart des continents, et ça s'est élargi à l'ensemble des continents, cette espérance émancipatrice. Alors, selon mon hypothèse, la galaxie altermondialiste, elle contient en émancipatrice pour le 21e siècle, mais c'est des potentialités, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire. Dans l'histoire, il n'y a jamais rien de nécessaire. Donc ça peut échouer, ça peut ne pas exister, ça peut ne pas marcher. Donc, une possibilité historique. Cette possibilité s'appuie sur l'épuisement relatif des deux grands mouvements émancipateurs modernes qui l'ont précédé, l'émancipation républicaine et l'émancipation socialiste. L'émancipation républicaine, c'est ce qui naît au XVIIIe siècle avec les Lumières. C'est l'idée qu'on peut émanciper grâce à l'égalité politique, la souveraineté populaire, l'égalité politique, la citoyenneté. Bon. C'est le premier mouvement, grand mouvement d'émancipation moderne, on pourrait dire républicain-démocratique. Bon. Et puis, à partir du 19e, avec le développement du capitalisme, on s'est rendu compte, mais de Marx à Jaurès, que l'émancipation républicaine avait des limites. C'est-à-dire qu'on pouvait proclamer l'égalité politique dans la sphère politique et en même temps, les gens restaient inégaux ailleurs, dans la vie sociale et culturelle. Et que ça fragilisait beaucoup l'égalité politique. Bon. Et donc, c'est dans le prolongement critique de l'émancipation républicaine qu'est née l'émancipation socialiste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit l'émancipation, c'est simplement la question politique, l'égalité politique, c'est aussi la question sociale. Et c'est la question des rapports entre les classes sociales. Et donc, la question de la justice sociale. Bon. Et donc, c'est comme ça qu'est né le mouvement socialiste dans le prolongement du mouvement républicain. Ces deux mouvements ont connu un épuisement relatif et la galaxie altermondialiste, elle aurait à répondre pour partie aux mêmes questions que le mouvement républicain, parce que la question de l'émancipation politique n'est pas réglée, la question de l'émancipation sociale n'est pas réglée, mais elle aurait aussi à répondre à d'autres questions, des questions qui sont renouvelées, qui ne se posent pas exactement de la même façon, et certains qui sont complètement nouvelles, comme la question écologiste, on le verra. Bon. Et donc, la galaxie altermondialiste, elle a des dimensions républicaines et socialistes, parce qu'elle hérite des deux mouvements émancipateurs antérieurs, et en même temps, elle a des dimensions post-républicaines et post-socialistes, parce qu'elle doit trouver quelque chose par rapport auquel les logiciels républicains et socialistes ne pouvaient pas répondre, bon, complètement. Alors, je vais essayer de passer en revue rapidement les 10 questions importantes qui, à mon avis, se posent à la galaxie altermondialiste. Je ne donnerai pas exactement la même importance à toutes les questions, mais il me semble que c'est 10 questions qui sont plus ou moins importantes pour cette galaxie altermondialiste. Soit c'est des questions plus anciennes qui ont commencé déjà à être traitées par le mouvement républicain et par le mouvement socialiste, et d'autres qui sont plus nouvelles ou qui se constituent dans des termes renouvelés. Alors, je commencerai d'abord par les questions associées au capitalisme, puisque c'est, disons, le cadre tendanciellement dominant des sociétés modernes. La galaxie altermondialiste est invitée à envisager un anticapitalisme élargi et renouvelé par rapport à ce qu'a été l'anticapitalisme au XIXe et au XXe siècle. Par rapport aux perspectives qui ont été beaucoup marquées par ce qu'on a appelé le marxisme ou les marxismes. Les marxistes les plus traditionnels, en tout cas, ont fréquemment analysé le capitalisme à travers une contradiction principale, ce qu'on appelle la contradiction capital-travail, le lien d'exploitation entre le capital et le travail. Alors, dans une lecture du capitalisme qui était tendanciellement à la fois très collectiviste, c'est-à-dire qui insistait sur les dimensions collectives, et très productiviste, c'est-à-dire qui ne se posait pas la question de la finalité de la production et qui avait peu d'intérêt pour les questions qu'on va appeler aujourd'hui écologistes. Alors, pour ma part, j'essaie de montrer que la galaxie altermondialiste, elle n'a pas affronté une contradiction principale qui serait celle du capitalisme, contradiction capital-travail, mais quatre contradictions principales qui sont en interaction et qui ne sont pas réductibles l'une à l'autre, dans lequel, évidemment, il y a la contradiction capital-travail qui constitue toujours une contradiction importante du capitalisme. Alors, j'ajouterai ensuite une autre question qui s'ajoute aux quatre autres, qui est la question mondiale. Alors, peut-être il faut préciser ce qu'on appelle, disons, traditionnellement, hein, c'est quelque chose qui est classique dans la littérature socialiste et marxiste, une contradiction du capitalisme. C'est quoi une contradiction principale du capitalisme? Une contradiction du capitalisme, c'est une série de contraintes qui sont associées, de domination, d'oppression, d'inégalités qui sont associées au capitalisme, de contraintes donc. Mais aussi, toujours dans l'idée de contradiction du capitalisme, il y a l'idée que quand il y a des contraintes, il y a aussi des possibilités d'émancipation. Autrement, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le capitalisme, toujours, crée des contraintes, mais ouvre des possibilités d'émancipation. Et c'est toujours, souvent comme ça, à travers cette idée de contradiction du capitalisme, qui a été analysée depuis Marx, la question du capitalisme. Mais ces possibilités d'émancipation, c'est des possibilités, simplement. Ce n'est pas une nécessité. Parfois, Marx et les marxistes ont cru que c'était nécessaire. Et on a bien vu, depuis deux siècles d'échecs, que ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui doit, pour fonctionner, être politisée. Parce que si ce n'est pas politisé, si ça ne devient pas l'objet d'une action politique, d'une action collective, eh ben, ça reste une possibilité, simplement. Et donc, ça ne se réalise pas dans la réalité. Alors, la première contradiction, donc, c'est la plus connue, la contradiction capital-travail. C'est celle qui alimente des inégalités de classe qui continuent fortement à structurer, disons, ce qu'on appelle la question sociale, à l'échelle nationale et mondiale, d'ailleurs. Comment définir cette contradiction? Le capital s'oppose au travail à travers un rapport d'exploitation, l'exploitation du travail par le capital, mais en même temps, le capital a besoin de développer le travail pour se développer lui-même, dans son processus d'accumulation. Le capitalisme, c'est un processus d'accumulation du capital. C'est tout. C'est une logique d'accumulation du capital. Le capitalisme, c'est une logique sociale amorale, ni immorale, ni morale, amorale. Bon, ce n'est pas son problème, la morale. C'est pour ça que c'est toujours étrange, cette idée de moraliser le capitalisme. Et le capitalisme, il accumule du capital. Son problème n'est pas une question morale. Et donc, les conséquences ne sont pas importantes pour lui. Bon. Donc, le capital, à travers un rapport d'exploitation, et le travail s'oppose au capital, mais en même temps, le capital développe le travail. C'est-à-dire, développe. À l'époque de Marx, il y avait à peu près, dans la société française, à peine 10% de salariés. Aujourd'hui, il y en a 70% dans les sociétés comme les sociétés françaises. Donc, on a vu que le capital a développé le travail salarié. Ça s'est réalisé d'une certaine façon. Et Marx et Engels ajoutaient dans le manifeste communiste de 1848, en développant le travail, le capital produit ses propres fossoyeurs. C'est-à-dire ceux qui pourraient renverser le capitalisme. Donc, les moyens de renverser le capitalisme. Alors, Marx et Engels disaient créer ses propres fossoyeurs. Il faudrait dire ses propres fossoyeurs potentiels. Parce qu'évidemment, on a bien vu que ce n'était pas nécessaire. En histoire, il n'y a pas de nécessité. Alors, cette contradiction capital-travail, elle prend pas exactement les mêmes formes aujourd'hui qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il faudrait étendre la question sociale à des caractéristiques aujourd'hui du capitalisme. Par exemple, à ce qu'a analysé un sociologue français, Robert Castel, autour de ce qu'il appelle la désaffiliation, ce qu'on appelle dans le langage ordinaire souvent l'exclusion, mais qui est le mouvement, disons, de précarisation généralisée du salariat dans les sociétés modernes, qui est une forme nouvelle que prend la contradiction capital-travail aujourd'hui, la logique de précarisation généralisée. Il faudrait prendre donc en compte les spécificités de la contradiction capital-travail aujourd'hui. Et puis, il faudrait sans doute voir que la question sociale, elle se définit en... mais avec d'autres formes de domination qui ne sont pas réductibles au capitalisme et qui donnent aussi sa forme à la question sociale. Par exemple, la domination masculine. on voit bien que l'inégalité homme-femme continue à structurer la question sociale. Mais l'inégalité homme-femme, ce n'est pas quelque chose qui est créé par le capitalisme. Ça existait avant et ça pourrait exister après. Bon. Donc, il y a d'autres dominations. On pourrait parler de domination culturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la littérature sociologique les discriminations postcoloniales, c'est-à-dire les discriminations systématiques qui affectent les populations issues de l'immigration. Ça, c'est pas réductible au capitalisme. Ça peut exister après encore. C'est pas simplement. Donc, il faut envisager la contradiction capital-travail toujours dans ses spécificités modernes avec les formes de précarisation et aussi dans l'interaction avec d'autres formes de domination qui ne sont pas réductibles au capitalisme et qui donnent, disons, son visage à la question sociale. Ces autres formes de domination, c'est tout l'apport d'une sociologie comme celle de Bourdieu qui a insisté sur la pluralité des dominations dans une société moderne. La deuxième contradiction, elle a peu été traitée, et quand elle est traitée maintenant, elle est traitée plus récemment par les marxistes, qui est la contradiction, ce qu'on peut appeler la contradiction capital-nature, qui appelle non plus à intégrer la question sociale, mais la question écologiste. Marx a amorcé, Marx était contradictoire, c'est-à-dire il était fasciné par le développement industriel du capitalisme, donc d'une certaine façon il avait une fascination productiviste, technologique, parce qu'on était au tout début du capitalisme, et donc... Ce que permettait de développer comme richesse collective le capitalisme, c'était énorme par rapport aux sociétés traditionnelles. Mais en même temps, il a pointé un danger du point de vue de la contradiction capital-nature. On trouve ça dans le livre 1 du Capital, donc un de ses livres majeurs. Je cite un passage de Marx. « Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. » Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. C'est-à-dire que le capitalisme dépouille aussi la nature. Et pour, dans sa logique d'accumulation du capital, pour accroître la fertilité des sols, il détruit peu à peu la possibilité de même que les sols produisent, donc la durabilité. Donc il a pointé cette dimension qui est devenue, disons, beaucoup plus importante aujourd'hui, après deux siècles de capitalisme. Alors, il y a des gens ont travaillé là-dessus. Hein, mon ami Jean-Marie Arribé, qui est président d'Attaque aujourd'hui, co-président, Michael Lowy, il y a une série de gens qui se sont intéressés aujourd'hui à cette contradiction capital-nature. Il y a toute une discussion intéressante à avoir aujourd'hui aussi avec la galaxie dynamique de l'écologie politique radicale en France qui se situe autour du thème de la décroissance. Bon. Qui permet de poser ce type de questions. Comment on peut caractériser cette contradiction capital-nature ? La nature, elle aussi, comme le travail, serait exploitée dans la dynamique d'accumulation du capital. Or, dans l'épuisement des ressources naturelles, comme dans les risques technoscientifiques qui sont associés à la logique d'accumulation du capital, eh bien, le capitalisme mettrait en danger ses propres bases naturelles et humaines d'existence, et même les bases naturelles d'existence de l'ensemble des sociétés humaines, pas simplement du capitalisme. Ce qui pose une question que ne posaient pas tellement les socialistes, les marxistes, etc., dans la question sociale. C'est-à-dire que notre problème n'est pas simplement le problème de la répartition des ressources parmi les gens qui vivent aujourd'hui, mais notre problème, c'est aussi celui des générations futures. Donc on n'a pas intégré dans notre vision de la justice sociale et du problème simplement les gens qui vivent aujourd'hui, mais aussi la question de quelle planète on laisse à nos enfants. Prendre au sérieux cette dimension suppose d'interroger quelque chose qui est très important dans le mouvement républicain et dans le mouvement socialiste, qui a été dominant dans ces deux mouvements, qui est une vision non critique, assez optimiste, du progrès technique et scientifique comme vecteur du progrès humain. C'est central depuis la philosophie des Lumières, cette thématique d'un progrès intrinsèquement positif. Il ne s'agit pas d'abandonner la tradition des Lumières du XVIIIe siècle, mais plutôt de redessiner ce qu'on peut appeler progrès aujourd'hui en fonction de ces problèmes. C'est ce que j'ai appelé ailleurs, dans un livre qui s'appelle La Société de Verre, il faudrait redessiner des Lumières tamisées, mais justement pas les Lumières aveuglantes qui croient de manière évidente au progrès de la science, de la technique, de la raison, etc., mais qui a un recul un peu plus critique par rapport à ces thématiques.
Deuxième contradiction, la contradiction capitale nature. Troisième contradiction, la contradiction capitale démocratie. C'est quelque chose qui est simplement en germe chez Marx parce qu'on est au début de la démocratie politique. La plupart des pays ne connaissent pas la démocratie parlementaire à l'époque de Marx. Donc, on est encore dans des formes largement autoritaires en Europe et dans le monde. Bon. C'est une question qui prend consistance vraiment maintenant et qui invite à insister sur la question démocratique dans la critique du capitalisme. Il y a toute une série de travaux en France récemment, Patrick Bréban, Thomas Coutreau par exemple au sein du conseil scientifique d'Attaque qui ont travaillé sur ce domaine. Comment on pourrait dire ça? On pourrait dire que dans les sociétés occidentales, pas dans les sociétés du Sud, mais dans les sociétés occidentales, le développement du capitalisme s'est accompagné d'un développement de la démocratie représentative libérale dans les sociétés occidentales. Notamment à cause d'une série de luttes sociales et politiques qui ont, conduit à un certain nombre d'acquis des démocraties, libérales contemporaines. Or, on est dans une phase de globalisation du capitalisme où ces acquis démocratiques sont fragilisés par différentes raisons. Déplacement des pouvoirs vers les firmes multinationales, des institutions technocratiques, FMI, Banque mondiale, OMC, Commission européenne, par rapport au pouvoir politique qui était associé à l'État-nation et qui était, lui, bénéficie non pas d'une grande démocratie, mais d'un contrôle démocratique minimal ou un peu plus important, relatif, disons. Réduction du pluralisme d'expression avec la concentration mondiale des médias, ou montée des logiques sécuritaires avec la thématique du terrorisme et la lutte contre le terrorisme, qui fait qu'il y a une restriction, plutôt depuis quelques années, des libertés individuelles et collectives, plutôt qu'une progression comme on a connu auparavant. Bon. Donc, il y aurait une contradiction plus importante aujourd'hui entre le développement du capitalisme et la question de la démocratie. Troisième contradiction. Quatrième contradiction, et c'est celle sur laquelle j'insisterai après, dans la deuxième partie de mon exposé, c'est la contradiction capital-individualité, qui travaille aussi le capitalisme et qui pose la question, ce que j'appelle la question individualiste, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie parce que ça sera centré là-dessus. Et puis, une dernière question liée au capitalisme directement. C'est une question particulièrement active dans la phase actuelle du capitalisme, qui est en lien avec les quatre précédentes. C'est la question mondiale. C'est-à-dire que face à la globalisation capitaliste aujourd'hui, le cadre mondial deviendrait plus opératoire pour les combats émancipateurs, sans éliminer pour autant les niveaux locaux et nationaux. C'est-à-dire que les rêves du cosmopolitisme républicain de Kant ou de l'internationalisme prolétarien deviendraient en fait plus opératoires, alors qu'ils étaient moins opératoires à l'époque où la forme dominante était l'État-nation. Donc c'était la forme nationale qui était centrale. Donc il y a cet espace mondial qui devient un espace plus important d'action. Et le mouvement altermondialiste se situe évidemment au niveau local, national, etc., mais aussi immédiatement au niveau mondial, les forums sociaux mondiaux. Donc ça suppose de poser évidemment cette question mondiale d'abandonner une certaine nostalgie de l'État-nation comme le cadre principal. C'est pas pour dire que c'est plus le cadre, mais comme le cadre principal de toute action. Il n'y a pas que des problèmes qui se posent à l'altermondialisme qui sont liés au capitalisme. Et il y a, deux oppressions autonomes par rapport à la logique capitaliste qui se posent aussi au mouvement altermondialiste et qui contribuent, comme j'ai dit tout à l'heure, à définir aussi la question sociale. C'est d'abord la question féministe. L'émancipation féministe a eu une présence à la fois dans le mouvement républicain et dans le mouvement socialiste, mais il a toujours été tenu à l'écart, comme un élément périphérique, comme un problème secondaire, disons. Bien que l'oppression masculine soit antérieure à l'existence même du capitalisme. Bon. Cette émancipation féministe, elle est présente dans le mouvement altermondialiste. Un des éléments importants du départ du mouvement altermondialiste, c'est la marche mondiale des femmes de 2000, bon, dans l'ensemble des pays. Et donc, le mouvement altermondialiste fait davantage du combat contre la domination masculine un de ses axes un axe qui est moins périphérique de la façon dont ça a été traité, disons, par antérieurement par le mouvement républicain et par le mouvement socialiste, par rapport à une forme d'oppression qui est sans doute une des plus anciennes et des plus structurantes dans les sociétés humaines. Autre question, septième question, c'est... c'est un terme qu'on utilise maintenant en sciences sociales et un peu ailleurs, qui est ce qu'on appelle la question postcoloniale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des ressemblances, c'est pas que c'est la même chose, mais que entre l'oppression coloniale à l'époque des colonies occidentales et une série de phénomènes actuels, il y a des ressemblances, il y a des analogies. C'est pour ça qu'on parle de postcolonial. Il ne s'agit pas des mêmes choses, mais d'analogies entre des logiques différentes. Ça concerne deux grands plans. Ça concerne d'abord les relations entre les pays occidentaux et les anciennes colonies, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Bon. Par exemple, ce que pour la France, le rapport entre la France et l'Afrique, on appelle la France-Afrique. Cette dimension néocoloniale, elle est partie prenante des problèmes mondiaux aujourd'hui. Mais il s'agit aussi d'une deuxième dimension, qui sont les discriminations systématiques à l'école, dans le logement, dans le travail, accompagnées de racisme, plus récemment de ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est-à-dire de diabolisation de l'islam dans l'espace public en Occident, qui affectent les immigrés et leurs héritiers dans les sociétés comme la société française. Et cette question postcoloniale n'est pas une question qui est réductible à la question de la contradiction capital-travail. Elle est en interaction, évidemment, puisque ceux qui sont les plus exploités du côté de la contradiction capital-travail sont aussi ceux à qui on ajoute encore ces discriminations en plus. Bon. Mais ce n'est pas réductible à la question de l'exploitation capitaliste. Enfin, il y a une série de questions, et c'est les trois dernières questions, qui sont posées au mouvement altermondialiste et qui renouvellent la question de l'émancipation. Je serai assez bref là-dessus. La huitième question, c'est la question expérimentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la question expérimentale ? C'est que a été assez structurant dans les mouvements d'émancipation l'idée d'une sorte de grand soir magique. Soit ce grand soir était lié à une révolution, à une insurrection qui allait permettre de transformer radicalement les choses d'un coup. Soit c'était un grand soir électoral, c'est-à-dire c'est parce que des gens allaient gagner les élections que ça allait se transformer radicalement. Bon. Enfin, cette thématique du grand soir a beaucoup marqué les mouvements d'émancipation, dans une forme un peu magique. Et on attendait beaucoup de ce basculement, dans l'attente de ce basculement. Bon. Or, la question expérimentale, elle dit que si on veut construire une société basée sur des dimensions radicalement différentes de ce qui existe, eh bien, il faut bien commencer à expérimenter ici et maintenant des nouvelles façons de vivre, de travailler, de décider, etc. D'éduquer, d'apprendre. Bon. Cette galaxie expérimentale, elle est présente dans le mouvement altermondialiste. Expérience de démocratie participative, squat autogéré, économie solidaire, agriculture alternative, etc. Ça participe déjà de la galaxie altermondialiste. C'est-à-dire que la galaxie altermondialiste revalorise la dimension expérimentale. Il faut déjà, bien sûr que ça ne suffit pas d'expérimenter ici et maintenant, mais on ne voit pas comment on pourrait construire une société sur des bases différentes si on n'essaye pas d'autres façons. Et si on ne les expérimente pas, et si on n'expérimente pas, donc l'échec aussi. Parce que ça ne va pas s'inventer facilement, une société basée sur d'autres logiques, sur d'autres rapports sociaux. Donc, si personne n'a d'avance les clés de la société émancipée, s'il n'y a pas de certitude de ce point de vue, si on ne sait pas complètement à l'avance, eh ben, il faut bien explorer, tâtonner, se tromper, etc. Donc, expérimenter. Cette composante expérimentale, elle était un peu au début du mouvement ouvrier. Parce qu'au début du mouvement ouvrier, elle est mutuelle, d'abord. Et puis, il y a les coopératives. Quand, au début du XXe siècle, Jean Jaurès définit le socialisme, il dit que ça s'est basé sur trois pieds. Le pied parlementaire, le pied syndical et le pied coopératif. Et en quelques années, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, peu à peu le troisième pied a disparu. Il ne restait plus que deux pieds. Le pôle partisan et le pôle syndical. Avec une vision très particulière, c'était que le syndicat était dépendant du parti. Que ça soit d'ailleurs dans... du côté du Parti communiste ou de la SFIO, il y avait une logique assez proche. Et peu à peu, ce troisième pôle expérimental, qui était très partie prenante des débuts du mouvement ouvrier, a été mis de côté. Bon. Et qui a, lui-même a connu aussi, parce qu'il y a des limites à l'expérimentation, des formes d'institutionnalisation qui ont fait que, à la fois, ça a permis d'expérimenter des choses nouvelles, mais en même temps que, regardons les grandes mutuelles, par exemple, aujourd'hui, ça ressemble beaucoup aux institutions bureaucratiques ou privées autres. Et donc, il y a aussi un effet propre de l'institutionnalisation de ces formes expérimentales. Mais en tout cas, il a existé une composante expérimentale et peu à peu, elle a disparu. Et donc, il y aurait une réévaluation, non pas que ça devienne le cœur, parce que justement, un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus penser qu'il faut agir que sur un seul plan. Ceux qui disent qu'il n'y a qu'une solution, qu'il y a un seul plan, etc., il faut s'en méfier comme la peste, ceux qui ont la solution, toujours, aujourd'hui. Parce que c'est au moins de 2 siècles d'échecs, on peut tirer au moins ça, c'est ceux qui ont la solution, il faut s'en méfier surtout. C'est d'abord, il faut les éviter, d'abord, premièrement. Cette réévaluation de la logique expérimentale, elle oblige, entre autres, à mettre en cause la domination d'un vocabulaire, je dirais, lié à l'hégémonie masculine sur la politique. Un vocabulaire viriliste et machiste. Puisque les gauches sont souvent marquées par le vocabulaire de la politique, c'est force, rapport de force, combat. Bon, c'est un vocabulaire militaire. Ça marque les imaginaires de tout, de la gauche modérée à l'extrême gauche. Ça marque tous les imaginaires. C'est très lié à l'hégémonie masculine sur la politique. Pas de nature masculine ou de nature féminine, mais ce qu'on a appelé le féminin et le masculin dans nos sociétés historiquement. Et cette hégémonie du vocabulaire de la force, des rapports de force, ce vocabulaire viriliste sur la politique, ça a empêché de penser d'autres dimensions. Des questions qui vont être davantage considérées comme relevant du pôle féminin, donc dévalorisées. La fragilité, l'incertitude, l'exploration. Donc des choses qui ont à voir avec la question de l'expérimentation. Donc la dévaluation de la logique expérimentale dans la politique a beaucoup à voir avec l'hégémonie masculine. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire il faut que de la fragilité ou de l'exploration, pas de la force. C'est comment on peut métisser le vocabulaire de la force et du combat avec le vocabulaire de la fragilité et de l'exploration, en sortant de l'hégémonie masculine sur la politique. Neuvième question, c'est la question de la pluralité. Parce que j'ai dit, c'est un mouvement très divers. Un mouvement très divers, mais il se pose la question d'un espace commun. C'est une question que posait une grande philosophe politique, Hannah Arendt. Elle disait, la politique, c'est produire un espace commun avec des gens différents. Elle dit, au départ des sociétés humaines, de la politique, il y a la pluralité humaine. C'est-à-dire, tout le monde est différent. Il y a une grande diversité. Et il faut construire un espace commun entre ces gens très différents. Alors, comment on a fait en général et comment on fait le mouvement républicain et le mouvement socialiste? Ils ont tendu à construire l'espace commun autour du vocabulaire de l'unité, de l'unification, c'est-à-dire en réduisant la pluralité, en réduisant les différences. Donc, c'était le commun qui dominait le différent, c'était le commun qui dominait le pluriel. Et donc, c'est la domination du vocabulaire de l'unité, de l'unification. Regardez encore, en 95, on disait tous ensemble. C'est le vocabulaire de l'unité. Mais si on venait du côté de l'unité, comment on peut construire du commun avec des gens différents, mais sans annihiler les différences, où chacun reste différent en même temps, singulier. Voilà, c'est le problème de la politique. C'est la façon dont le posait Hannah Arendt. Aujourd'hui, le mouvement altermondialiste, la galaxie altermondialiste, essaye de tâtonner vers un vocabulaire différent, c'est-à-dire de sortir de cette vision unitaire du mouvement républicain et socialiste, et parle plus facilement de convergence et de coordination. Si on dit qu'il y a des convergences et des coordinations, on n'a pas cette idée que pour construire l'espace commun, il faut réduire les différences. On n'a pas à dire que tout le monde doit devenir pareil, que ça doit être une sorte de tout, d'unité qui doit surgir, non. Dans les convergences, par exemple, quand les gens convergent pour, pendant la guerre en Irak, faire plusieurs millions de personnes de par le monde faire une manifestation, ils font une action commune, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas différents. Ils ont éliminé leurs différences. Donc, on peut construire des divergences sans écraser les différences. Et donc ça suppose d'élaborer quelque chose de nouveau par rapport à une certaine façon qu'avait de penser le mouvement républicain et le mouvement socialiste dans son sillage. Enfin, une dernière question, c'est ce que j'appelle la question culturelle. C'est la 10e question. On a affaire aujourd'hui à une sorte de couple infernal avec la globalisation capitaliste. C'est-à-dire, d'un côté, on a une globalisation marchande qui tend à uniformiser les choses, hein, à travers la marchandisation, justement. Et cette globalisation marchande tend à faire renaître des identités fermées, religieuses ou autres. Et donc, on a ce couple. Globalisation, standardisation mondiale, et puis en même temps, renaissance d'identités fermées sur elles-mêmes. Bon. Par rapport à ça, il y a des pistes dans la galaxie altermondialiste. C'est-à-dire, à la fois, il faut reconnaître les identités opprimées. Il ne faut pas nier qu'il y ait des identités opprimées. Et en même temps, la voie, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des identités opprimées, la voie qui est poursuivie, la voie altermondialiste, c'est la voie du métissage culturel. Ce n'est pas l'idée que chaque communauté se referme sur elle-même. C'est le métissage, dans un cadre non hiérarchisé. Et donc il y a, d'un côté, disons, la globalisation marchande qui standardise, il y a, face à ça, une renaissance d'identité culturelle fermée, et il y a peut-être une réponse possible dans le métissage culturel, comme à partir du moment où on reconnaît les identités opprimées, et qu'on ne soit pas dans le déni de la reconnaissance des différentes spécificités culturelles. Donc le thème du métissage culturel, c'est, dans le mouvement altermondialiste, lié à une autre répartition mondiale des richesses, une alternative à ce qui serait la guerre des cultures. Parce qu'avec le développement de la globalisation capitaliste, a été développé le thème de la guerre des cultures, du choc des civilisations. L'idée qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre les différentes civilisations qui nécessairement mènera à la guerre, bon, entre l'Occident, l'islam et puis la Chine. Voilà une série de questions qui, soit sont des questions anciennes, mais qui se posent en termes renouvelés, comme la contradiction capital-travail et la question sociale, soit des questions en partie nouvelles qui se posent à la galaxie altermondialiste et auxquelles la galaxie altermondialiste tente de répondre et qui justifient, à mon sens, qu'il faille inventer une troisième politique d'émancipation. Que ni le logiciel républicain tout seul, ni le logiciel socialiste ne peuvent complètement répondre à eux-mêmes à ces questions, et donc il faut inventer un nouveau logiciel. Donc c'est ça l'idée, qu'on serait au même niveau aujourd'hui que ce qu'a été le début de la pensée des Lumières au début du 18e siècle ou le début du mouvement ouvrier au 19e siècle, avec la possibilité d'inventer une nouvelle politique d'émancipation, évidemment qui hérite des deux autres, et donc qui soit aussi un héritage, comme l'émancipation socialiste a hérité de l'émancipation républicaine. Alors, cette galaxie altermondialiste qui a comme possibilité d'inventer une nouvelle politique d'émancipation dans le sillage des politiques républicaines et socialistes, a une question importante à poser qui est sous-estimée souvent, c'est pour ça sur laquelle je vais insister, et en plus parce que mes travaux tant en sociologie qu'en philosophie politique portent principalement là-dessus aujourd'hui, c'est la question de l'individualité, donc c'est la deuxième partie de mon exposé qui sera un peu plus courte. Donc c'est en quoi l'altermondialisme a à répondre à la question individualiste. Et pourquoi la question de l'individualité et de la place de l'individualité est un élément important. Alors, j'aurai trois temps là-dedans et deux qui seront nourris plutôt de critiques sociologiques et une troisième plutôt de philosophie politique. D'abord, je voudrais essayer de montrer qu'on peut critiquer le capitalisme au nom de l'individualité. Enfin, on croit souvent qu'on critique le capitalisme au nom du collectif, la justice sociale, la solidarité, etc. Et on a cette habitude. Alors je vais essayer de montrer pourquoi, en fait, très tôt, on a critiqué le capitalisme au nom de l'individu, Marx lui-même. Je vais même montrer que Marx est un auteur individualiste, contrairement à ce qu'on dit souvent les marxistes. Et qu'il se rapproche beaucoup d'auteurs anarchistes de son époque, de ce point de vue, comme Proudhon ou Bakounine. Alors, ça peut paraître paradoxal, évidemment, Parce que l'individualisme est souvent doté de tonalités négatives. Alors là, on lui donne des tonalités positives. Et c'est d'autant plus paradoxal que le cours néolibéral du capitalisme, donc les contre-réformes libérales ou la contre-révolution néolibérale, depuis la fin des années 70, depuis, disons, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 79, la contre-révolution libérale, elle utilise beaucoup le thème de l'individu comme un de ses moteurs. Individualisation des salaires, flexibilité, mobilité, etc. Il y a beaucoup un usage de l'individu. Ce qui fait que certains critiques du néolibéralisme mettent un signe d'égalité entre individualisme et néolibéralisme. C'est-à-dire, l'individualisme, ça serait le mal issu du néolibéralisme. Et donc, il faudrait le combattre. Et donc, ceux qui sont contre le néolibéralisme, ceux qui sont pour l'émancipation, ils seraient contre l'individualisme. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend dans la galaxie altermondialiste et antilibérale. Cette tentation qui est récente rejoint une tendance plus ancienne qui a dominé le mouvement ouvrier, la gauche. C'est la lecture collectiviste de la critique du capitalisme, et en particulier la lecture collectiviste de Marx, qui a dominé chez nombre de marxistes de différentes obédiences, mais orthodoxes. Alors, ces deux tendances, la tendance récente à avoir une lecture collectiviste de Marx et de la critique du capitalisme, et la tendance ancienne et la tendance récente qui est d'assimiler individualisme et néolibéralisme, elles confondent deux choses, deux figures de l'individualité. Une individualité marchande étroite, commerciale on peut dire, c'est la définition commerciale de l'individu, et puis une singularité individuelle plus large qui est fabriquée historiquement à partir de relations sociales, à partir de sociabilité. Or, justement, la critique d'un individualisme marchand, instrumental, égoïste, pourrait s'adosser à la perspective d'autres individualités, pas simplement du collectif, mais des individualités plus polyphoniques, plus riches en relations sociales que la définition, disons, marchande de l'individu égoïste. Et donc, on ne jouerait pas alors, à la différence d'un anti-néolibéralisme simpliste, on ne dirait pas le collectif contre l'individu. Mais on assurerait la promotion d'un autre individu face au néolibéralisme et au capitalisme. Un autre individu inséré dans des relations sociales face à la pauvreté relationnelle et spirituelle de l'individu marchand. Alors, cette piste, en fait, elle a déjà été posée par Marx, mais elle a été largement, disons, occultée par beaucoup de lectures marxistes de Marx. Marx, en fait, je me suis aperçu ces dernières années, mais on peut faire le test, c'est que le mot individu est un des mots les plus présents dans l'ensemble de l'œuvre de Marx, des œuvres de jeunesse aux œuvres de la fin de sa vie. C'est un terme beaucoup plus présent que le mot classe, par exemple. Non, beaucoup plus présent. Parce que Marx est aussi un héritier du libéralisme politique de son époque, et que la question de l'épanouissement de l'individu, de la réalisation de l'individu, est une valeur centrale chez lui. Et donc l'individualité a beaucoup servi chez lui à critiquer le capitalisme. C'est-à-dire qu'il n'a pas critiqué le capitalisme simplement au nom du collectif, ou du justice sociale, ou d'une autre répartition des richesses, mais pour la défense de l'individualité. Et souvent, dans beaucoup de textes de Marx, l'individualité, c'est la finalité, le collectif, c'est le moyen. Or, dans ce qu'on a souvent appelé marxisme et communisme, la finalité, c'est le collectif, et éventuellement, l'individu, c'est le moyen. C'est l'inverse. Alors, c'est par exemple le cas très net dans un texte de jeunesse comme les manuscrits de 1844, où il va appuyer explicitement sa mise en cause du capitalisme. Je cite une citation de Marx sur « Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité. » Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité. C'est-à-dire que moi, quand on m'a appris le marxisme dans les années 70, on ne m'a pas dit que Marx était un philosophe des sens et de la sensualité. Or, c'est un philosophe des sens et de la sensualité individuelle, personnelle. Et pourquoi le capitalisme, c'est pas bien? Parce que le capitalisme, ça écrase ça. Marx ajoute après, à la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l'aliénation pure et simple des sens, le sens de l'avoir. À la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l'aliénation pure et simple des sens, le sens de l'avoir, la propriété privée, la logique de l'accumulation de l'argent, qui réduit les sens les sensations des individus, leur développement des sens et au même temps leur capacité créatrice. Donc, Marx s'attachait à la réduction unidimensionnelle de la diversité des sens et des capacités humaines par le capitalisme. Et donc, il faisait une critique du capitalisme au nom de l'individu, par contre l'individu. Donc, Marx n'aurait pas abordé le capitalisme seulement à travers la contradiction capital-travail, mais aussi à travers ce que j'appelle la contradiction capital-individualité, qui définit pas seulement la question sociale, mais la question individualiste. Alors, qu'est-ce que ça serait cette contradiction capital-individualité, notamment aujourd'hui dans notre société néo-capitaliste ? Le capitalisme contribue à nourrir l'individualisme contemporain. C'est-à-dire, le capitalisme contribue à individualiser nos sociétés, d'ailleurs à donner plus de place à la figure de l'individu dans nos sociétés. Au moins, la figure au sens de modèle. Bon. C'est pas le seul, hein. On croit souvent que c'est que le capitalisme, c'est pas le seul. Il y a des tas de processus qui ont mené à l'individualisme contemporain, l'individualisme démocratique, à travers la figure de la citoyenneté individuelle. Et quand on a inventé le citoyen, on a inventé l'individu aussi. Parce que ça suppose de donner une autonomie, une raison individuelle, etc., de construire une autonomie individuelle. Il y a eu le développement dans notre société de la valorisation des intimités personnelles. Et il y a eu le déclin de la famille patriarcale. L'émancipation relative des femmes, les droits reconnus aux enfants, la timide reconnaissance des modes de vie homosexuels, tout ça qui casse la famille patriarcale, a donné plus de place à l'individu. Donc, il n'y a pas que le capitalisme qui a individualisé nos sociétés. Il y a des mouvements assez divers qui ont individualisé nos sociétés. Mais le capitalisme est une logique, avec sa logique commerciale, est une des logiques qui a contribué à nourrir l'individualisme contemporain. Mais le capitalisme, d'un côté, il stimule les désirs d'épanouissement personnel. Il dit, ben, vous allez réaliser votre bonheur personnel. Vous allez vous réaliser dans l'entreprise, par la consommation, etc. Vous allez vous réaliser. Bon. Donc, il stimule la demande de réalisation personnelle. Bon. Mais au final, le capitalisme limite et tronque cette demande. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, il vise à accumuler du capital. Il est dans une logique de marchandisation de profit. Et donc, au bout du compte, il frustre cette demande. C'est-à-dire qu'il développe les aspirations à la réalisation de soi, et en même temps, il les frustre. Il provoque la frustration. Que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans la consommation. Donc, c'est ça la contradiction capital-individualité. Le capitalisme fait naître de désirs des réalisations individuelles qu'il ne pourrait pas vraiment satisfaire dans le cadre de sa logique d'accumulation du capital. Et donc, il crée des frustrations. Et on peut dire que, ici on pourrait reprendre la phrase de Marx et d'Engels, les désirs individuels frustrés, les individualités blessées dans le capitalisme, sont aussi des fossoyeurs potentiels du capitalisme, comme les salariés dans la contradiction capital-travail. Des fossoyeurs du capitalisme. Le problème, c'est que ça appelle une politisation. C'est-à-dire que c'est une contradiction, c'est une potentialité. Mais si on n'en fait pas un thème d'action, eh ben, ça reste une potentialité. Or, il se trouve qu'il y a une forte source de l'anticapitalisme en France, de l'insatisfaction à l'égard du capitalisme, que personne ne politise. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inertie des formes politiques. C'est-à-dire, les formes contestatrices sont habituées à politiser la contradiction capital-travail. Donc, ils sont habitués à poser la question collective et sociale. Mais ils ne savent pas politiser les désirs d'individualité frustrés. Tous les programmes des gauches un peu critiques, qui sont encore critiques par rapport au capitalisme, qui se ressemblent en général, ben, leurs deux axes, c'est quoi ? C'est service public et lutte contre les inégalités sociales, c'est-à-dire des choses qui répondent à la question sociale. Mais personne ne pose comment on répond à cette question de l'individualité. On ne sait pas politiser ça. Voilà. Donc on y a une sorte d'inertie des institutions, des syndicats, des associations, des partis, etc., qui ne savent pas comment faire. Donc il y a une source potentielle très forte de mise en cause du capitalisme, d'insatisfaction à l'égard du capitalisme dans la société, mais quasiment personne ne la politise. Parce que les courants dominants du mouvement ouvrier ont plutôt donné une vision, une lecture collectiviste. Ce n'était pas nécessaire. Il a fallu, par exemple, que les marxistes, pas au sens de Marx, parce que moi j'accorde une grande importance à Marx, mais les marxistes battent les anarchistes, par exemple, et les considèrent en face des marginaux. Parce que les anarchistes et les libertaires ont posé cette question. Le premier syndicalisme en France, le syndicalisme révolutionnaire, la première CGT, la question de l'individu est centrale. la CGT dirigée par des libertaires jusqu'à la guerre de 14, dirigée par des anarchistes et des plus large que les anarchistes, disons des militants libertaires. Et ce qui est central à l'époque, c'est parce que il y a une revendication de dignité des ouvriers de métier de l'époque. Ceux qui font la première CGT, c'est des cordonniers, c'est des boulangers, c'est des sabotiers, etc. Et que chacun a la possession individuelle de son métier. Et que là, l'individualité de chacun, c'est son savoir-faire professionnel est très important. Et donc l'individualité est très forte à ces débuts du mouvement ouvrier. Mais il se trouve qu'une autre lecture, qu'une autre forme a dominé, la forme marxiste, qui a dominé aussi bien d'ailleurs le mouvement socialiste et communiste en France et dans d'autres pays, et qui a marginalisé cette question. C'est encore présent dans le mouvement socialiste, encore à l'époque de Jaurès, mais plus après la guerre de 14. Jaurès définit encore dans un très beau texte qui s'appelle « Socialisme et liberté », il dit « Le socialisme, c'est l'individualisme poussé jusqu'au bout. » L'individualisme poussé jusqu'au bout. Et pour lui, l'individualisme poussé jusqu'au bout, ça passe par la collectivisation des moyens de production. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas antagonique l'idée que la propriété doit être collective, et qu'en même temps, l'objectif central du socialisme, c'est le développement de l'individualité. C'est-à-dire, il faut pour lui pousser plus loin la réalisation de l'individualité qui a commencé à être posée avec la Révolution française. C'est toujours la thématique de Jaurès, c'est de pousser plus loin ce qui a été amorcé pendant la Révolution française. Et il dit ça, le socialisme, c'est l'individualisme poussé jusqu'au bout. Or, après la guerre de 14, le socialisme, c'est le collectivisme, aussi bien pour les socialistes que pour les communistes, pour beaucoup de courants. Et il ne reste que simplement des secteurs marginaux, libertaires et autres qui continue à poser la question de l'individu, mais dans les marges, disons. Alors, avec l'émergence à partir des années 80 de ce qu'on appelle le néo-capitalisme, qui va davantage valoriser encore la figure de l'individu, notamment que ce soit dans les processus, disons, de consommation ou productifs, avec la thématique de l'implication professionnelle, la mobilité, etc., cette contradiction se trouve exacerbée. Sur ce néo-capitalisme, je renvoie toujours à ce livre important de Luc Boltanski et F. Chapello, Le nouvel esprit du capitalisme, qui fait, disons, le point sur cette nouvelle forme du capitalisme aujourd'hui depuis, disons, le début des années 90. Et donc là, dans le néo-capitalisme, la contradiction capitale et individualité, parce qu'on excite encore plus chez les individus la demande de réalisation personnelle, et donc on excite encore plus la frustration. Parce que c'est toujours le capitaliste qui répond. Et donc, on produit à la fois plus de demandes de réalisation personnelle et plus de frustration de cette demande. Alors, il y a des... Ça, c'est le cadre d'analyse. Il y a des potentialités qui pourraient être politisées du côté des individus contemporains. Il y a, et bien sûr, et ça, on le sait le faire, des possibilités liées à la crise sociale et à l'inégalité sociale et donc à une politisation de la question sociale, mais là j'y reviens pas parce que c'est une question d'une certaine façon que la plupart de ceux qui refusent le capitalisme ont facilement en tête. Mais il y a des potentialités aussi du côté de l'intime. Alors ce qui m'a fait bien mettre en évidence ça, c'est une enquête que j'ai fait comme sociologue sur la réception parmi des téléspectateurs, surtout des téléspectatrices, d'une série télévisée américaine qui passait il y a quelques années, qui s'appelle Ally McBeal. Et donc j'ai fait une enquête avec une centaine de téléspectatrices qui regardaient ce feuilleton, de différents milieux sociaux, de différentes générations. Et ça m'a mieux aidé à saisir les points d'appui émancipateurs qui sont générés par le néocapitalisme. Le néocapitalisme génère des contraintes, mais aussi des possibilités émancipatrices. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce feuilleton, l'héroïne de ce feuilleton était une avocate bostonienne de 30 ans qui était en quête d'un idéal amoureux, pleinement désintéressé, complètement non marchand, on peut dire. Et en même temps, ça ne marchait jamais. Bon. Donc, il y avait toujours, disons, une insatisfaction, une quête d'un idéal de réalisation amoureuse qui était toujours se heurter à l'impossibilité, mais sous une série télévisée qui était très drôle. Bon, donc c'était un feuilleton en fait tragicomique. Bon. Très comique, mais en fait, sur le fond, assez tragique. Bon. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'était que dans le dispositif de la série, il y avait une voix off, donc quand elle réfléchissait, il y avait une voix qui parlait de l'héroïne, et elle exprimait dans la fiction télévisée ses insatisfactions et sa distance par rapport aux contraintes économiques, professionnelles, etc. C'est-à-dire que, par exemple, elle admettait de faire des choses pour sa vie professionnelle et son fort intérieur disait que c'était dégueulasse, que c'était pas comme ça qu'elle se représentait elle-même, bon, etc. Donc il y avait cette distance à l'intérieur d'elle-même constamment qui était agitée, bon, et qui laissait ouvert tout un espace à l'imaginaire personnel. Et cette dimension qui était présente dans le feuilleton, elle a des résonances dans les appropriations qui sont faites par les téléspectatrices. Je prends un exemple d'une téléspectatrice. Dominique, 39 ans, c'était une des personnes que j'ai interrogées, qui était assez éloignée du statut de l'avocate, hein, puisque elle était femme de ménage dans une résidence de personnes âgées. Elle était issue d'une famille très pauvre. Elle travaillait depuis 4-5 ans, simplement autrement. Elle avait toujours vécu de dispositifs sociaux. Elle avait 4 enfants de pères différents. Donc elle était vraiment dans une situation sociale dans les fractions, disons, les plus en difficulté des classes populaires. Et c'était une fan de feuilleton. Bon. Et pourquoi elle se reconnaissait dans ce personnage, qui est une avocate assez éloignée d'un point de vue social, etc. Elle me répond, c'est le côté un peu utopique de l'amour. Bon. C'est-à-dire que, et pourtant sa vie sentimentale était parsemée aussi d'échecs. Donc elle avait eu 4 enfants de pères différents. Son premier mari était un alcoolique qui la battait, donc elle l'avait quitté. Après, elle avait été quittée, etc. Elle avait plein de... Donc, sa vie sentimentale était parsemée d'échecs elle-même, comme dans l'héroïne, bon, de manière plus, disons, difficile que l'héroïne même. Et pourtant, elle puisait des ressources dans la série afin de maintenir l'horizon d'une vie radicalement autre, d'un ailleurs. Et donc, ce qui lui plaisait dans la série, c'était cet imaginaire radicalement autre. L'idée qu'il y avait bien un ailleurs possible, malgré les déceptions de l'existence. Alors, ces désirs d'ailleurs s'énoncent dans le langage de l'intimité. C'est-à-dire que ce n'est pas collectif, c'est me réaliser dans un cadre qui est non marchand, c'est-à-dire qui est désintéressé, qui est authentique, qui n'est pas pollué par l'argent. Mais c'est l'intimité. D'ailleurs, si je disais à la plupart des téléspectatrices que j'ai, avec qui j'ai eu ces entretiens que, de mon point de vue, il y a quelque chose de politique là-dedans, je trouverais ça sans doute bizarre qu'on dise politique, bon, ici, parce que c'est vécu comme étant intime, bon, simplement. Mais il me semble que c'est politisable. C'est politisable, donc c'est une potentialité. Pourquoi c'est politisable ? Parce que c'est en contradiction avec les valeurs marchandes hégémoniques de nos sociétés. L'idée d'une réalisation de soi dans un cadre qui est radicalement non marchand. Et qui est toujours frustré par rapport à ce que peut proposer la société marchande comme réponse à cette demande. Donc là, on a une potentialité critique très forte. Et je l'ai trouvé, disons, chez ces téléspectatrices qui est plutôt d'un milieu populaire, qui votait à gauche, mais je l'ai trouvé dans des gens qui votent à droite, et qui sont dans des statuts plus élevés, etc. Cette dimension, je l'ai trouvée de manière assez transversale dans des milieux sociaux, des orientations politiques, etc., extrêmement diversifiées. Alors, le problème, c'est que, c'est la difficulté, c'est qu'il faudrait que le mouvement altermondialiste, les forces, disons, radicales, critiques, inventent un langage politique renouvelé, des médiations pour politiser ce problème. C'est pas complètement impossible, parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique à la fin des années 70, on était encore dans la période post-68 tarde, et l'idée que réaliser sa vie personnelle ou réaliser sa vie amoureuse et la révolution, eh ben, c'était associé. On peut pas penser que c'est bizarre aujourd'hui, mais dans l'esprit des gens, c'était que deux choses associées. Et puis ça a été redissocié, donc c'est pas naturellement associé. Voilà. Donc il faut retrouver des moyens de réassocier ces questions. Et donc, mais ça suppose un langage particulier, ça suppose des médiations. Parce qu'évidemment, c'est vécu comme quelque chose de complètement intime. Et donc, il ne faut pas qu'on écrase la dimension intime de la façon dont c'est vécu. Et donc, ça permettrait un élargissement de l'anticapitalisme qui est une incitation à politiser des désirs personnels de réalisation, de reconnaissance de soi, qui sont à la fois stimulés et déçus par le capitalisme. C'est ça, c'est que le capitalisme stimule et déçoit ses désirs de réalisation de soi et de reconnaissance. évidemment en lien avec le front habituel de la lutte contre les inégalités sociales, mais c'est un autre front. L'obstacle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une inertie historique des institutions de politisation. C'est-à-dire que du côté syndical, associatif, de la gauche politique, on a surtout appris à politiser la contradiction capital-travail dans un sens collectiviste. Et donc, peu à traiter de la question de l'individualité, je l'ai dit, en dehors de courants anarchistes libertaires plus marginaux. Et donc, les courants dominants dans la galaxie altermondialiste, c'est très divers la galaxie mondialiste, sont héritiers de cette histoire et ils héritent aussi de cette difficulté. C'est-à-dire, ils ne savent pas complètement faire, ils sont un peu dépourvus par rapport à la question. Pour ceux qui en sont conscients, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients qu'il y a une source de critique du capitalisme, il y a un problème ici. Il y a ceux qui pensent que le problème n'est que dans la question sociale. Alors, et ce sera mon dernier point, pour politiser cette question, un des outils, évidemment ce n'est pas le seul, c'est de se poser la question d'une philosophie politique, donc d'une conception de la cité alternative, qui intègre cette dimension de l'individualité, qui ne soit pas une vision simplement collectiviste d'une société émancipée. Donc c'est ce que j'appelle une philosophie politique de l'individualité de la justice sociale. C'est-à-dire une philosophie politique qui aurait notamment à prendre en charge une logique de justice sociale qui réponde à la contradiction capital-travail et à la question sociale et une logique d'épanouissement des individualités singulières qui réponde à la contradiction capital-individualité. Alors, ces deux choses sont en tension. C'est-à-dire une conception de la justice sociale, c'est quoi ? La justice sociale, ça suppose souvent une mesure commune entre les personnes. C'est une vision qu'on hérite dans la pensée politique, au moins depuis Platon et Aristote. C'est-à-dire que pour répartir les biens, les droits, les responsabilités entre les personnes, il faut créer un espace commun entre eux. Comme on dit, il faut les rendre commensurables, c'est-à-dire mesurables dans un même espace. Et après, on peut répartir à chacun en fonction d'un critère commun. Et donc, la justice sociale, elle pose la question de critères communs qui servent de base à une répartition équitable des ressources, des droits, des responsabilités. C'est ce que j'appelle le versant social-démocrate du problème, qui pose la question de la répartition, d'une certaine façon, avec un espace commun de mesure. Social-démocrate au sens large, au sens d'associer à un état social, en sens de ce qui pose la question sociale. Le mot social-démocratie est né dès la fin du XIXe siècle, puisque la première social-démocratie, c'est la social-démocratie allemande qui se constitue avec l'aide de Marx. Mais si on pose que cette question de la justice sociale, du commensurable, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. C'est ce qui échappe justement à la mesure commune. C'est l'incommensurable, c'est l'individualité singulière. C'est-à-dire que quand on dit qu'une personne est singulière, quand on dit qu'une personne est unique, c'est que justement elle est incommensurable, c'est-à-dire qu'elle ne se réduit à aucune mesure commune. Il y a quelque chose de spécifique qui fait qu'on n'en trouvera pas deux pareils exactement. Bon. C'est la question donc de l'individualité singulière. Ça, les théoriciens anarchistes ont fréquemment, que ce soit Proudhon, Bakounine, même des théoriciens plus ultra-individualistes encore comme Stirner, ont fréquemment insisté sur les risques d'écrasement de la singularité individuelle par les cadres collectifs. Et c'est pour ça que j'appelle ça la composante libertaire du problème. La composante libertaire. Alors le problème, c'est comment on lit les deux. Il y a un philosophe important qui est à la croisée de deux grandes traditions, ce qu'on appelle la phénoménologie en philosophie, c'est-à-dire qui débute au XXe siècle avec Husserl, et puis qui est un des grands spécialistes, disons, de la tradition juive, qui est Emmanuel Levinas, qui, développe une philosophie, une éthique du visage, qui est un des grands philosophes français morts aujourd'hui, et mort en 1995. D'abord, Levinas est bien un philosophe de la singularité, du visage d'autrui. C'est-à-dire, on peut dire que la spécificité de Levinas, c'est de dire que je ne peux jamais comprendre autrui, aux deux sens du mot comprendre, c'est-à-dire au sens de le connaître totalement et au sens de l'englober complètement. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui fuit, qui m'échappe, en fait. C'est justement l'unicité individuelle, il y a quelque chose qui échappe. À toutes les prises que j'essaye d'avoir sur autrui, à toutes les prises collectives, à toutes les mesures, c'est la singularité individuelle. On peut dire que un peu la singularité individuelle chez Lévinas, c'est un peu un trou dans la baignoire de l'être. C'est-à-dire que la plupart des penseurs occidentaux ont pensé l'être, ce qui existe, un peu comme une baignoire dont on peut faire le tour. Et la particularité de Lévinas, c'est qu'il a montré qu'il y avait un trou dans la baignoire et que ça fuyait de ce côté-là. C'est ça la singularité individuelle, c'est ça le visage d'autrui. Donc c'est quelque chose qui nous empêche d'emprisonner autrui dans toutes nos catégories générales. Donc c'est un des grands penseurs de la singularité, Lévinas. Mais en même temps, il a commencé à suggérer une piste pour mettre en rapport les deux dimensions. C'est-à-dire la part libertaire de l'incommensurable et la part social-démocrate du commensurable. La part libertaire de l'individualité, la part social-démocrate de la justice sociale. Je cite un passage de Lévinas. « Comment se fait-il qu'il y ait justice ? Je réponds que c'est le fait de la multiplicité des hommes, la présence du tiers à côté d'autrui qui conditionne les lois et instaure la justice. Si je suis seul avec l'autre, je lui dois tout, mais il y a le tiers. Il faut par conséquent peser, penser, juger en comparant l'incomparable. Si je suis seul avec autrui, je suis dans une relation singulière qui ne se mesure pas forcément. Bon. Mais dans une société, il n'y a pas que moi et un autrui singulier, il y a tous les autres. C'est ça que Lévinas appelle le tiers. Et c'est pour ça qu'il y a dans les sociétés humaines des institutions et des lois, parce qu'il y a tous les autres. Prenons un exemple d'une enquête que j'avais faite en m'inspirant de Lévinas sur les rapports infirmières-malades à l'hôpital. Eh bien, j'observais un peu ce qui se passait dans un hôpital. On m'avait mis une blouse blanche et on me faisait passer pour un interne. Et il y a une infirmière la nuit qui tient la main d'un malade. Elle est dans une relation singulière. Elle ne compte pas le temps, etc. Elle est prise dans un rapport à une souffrance singulière. À un moment donné, elle va regarder sa montre. Parce qu'on est de nuit, elle doit faire le tour de 10 autres malades. Elle réintroduit la question de tous les autres, du tiers, donc de la justice. Donc il n'y a pas cette question de la singularité simplement, il y a aussi la question de tous les autres. C'est pour ça qu'il y a des institutions, des lois, et une question d'une mesure commune. Bon. Et Lévinas donc dit, il faut comparer l'incomparable. C'est-à-dire, il a commencé à pointer la nécessaire et irréconciliable tension entre le caractère incommensurable de la singularité d'autrui d'une part et l'espace commun de mesure d'autre part. Il faut comparer l'incomparable. Et il me semble que là, il y a une piste forte pour ce que peut être une philosophie politique de la singularité, de la justice sociale. Pour ma part, et pour casser les catégories habituelles, pour sortir du ronron des oppositions politiques et historiques habituelles, j'appelle ça social-démocratie libertaire, justement. Pour mettre en rapport la tradition, disons, de la justice sociale et la tradition anarchiste. En tension, pour penser cette question, il faut comparer l'incomparable. Il faut comparer, puisqu'il faut un espace commun de mesure pour répartir de manière plus juste les biens. Et donc, il faut rendre les personnes et les biens commensurables, mesurables dans un même espace, à partir de critères communs. Et en même temps, il y a quelque chose dans l'unicité individuelle qui échappera toujours à ça, l'incomparable. La philosophie politique associée, disons, soit à la forme républicaine, soit à la forme socialiste, sont dans le comparé. Ils ne sont pas dans le comparé l'incomparable. Ils sont dans le comparé, c'est-à-dire dans l'espace commun, dans la justice sociale. Alors, et je conclurai maintenant, il me semble que les mobilisations altermondialistes ouvrent de nouvelles possibilités, à la fois aux solidarités internationales, au nom d'une justice sociale mondiale qui se trouve au même niveau que la globalisation capitaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas la solidarité simplement pour telle ou telle collectivité ou dans tel ou tel État-nation, mais c'est une solidarité et une justice sociale globale, mondiale, par rapport à une globalisation du capitaliste et des problèmes. Dans le même temps, ces mobilisations altermondialistes apparaissent dans leur forme beaucoup plus respectueuse des expressions personnelles de leur diversité que les mobilisations antérieures. Et justement, notamment parce qu'elles ont à s'affronter à la tendance à l'uniformisation marchande, qui au contraire casse la singularité. Et il me semble que Kenny Arcana, justement, constitue, on l'a vu tout à l'heure et on le verra à la fin, une des voix altermondialistes qui exprime bien cette tension. La tension entre un niveau immédiatement mondial de la justice sociale et puis un respect de la singularité individuelle. On l'a vu tout à l'heure. L'idée de changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même. La double coordonnée de la galaxie altermondialiste, hein, celle qu'on connaît aujourd'hui, le monde n'est pas une marchandise et d'autres mondes sont possibles. Il faut faire attention à ce que certains aujourd'hui, parfois pour simplifier le problème, mais c'est très dangereux, ont oublié le S à d'autres mondes sont possibles. Et on retrouve maintenant les slogans « un autre monde est possible ». Alors, un autre monde est possible, c'est un peu plus gênant. Pourquoi ? Parce que c'est le retour de ceux qui savent. Ils ont la solution. Il faut les suivre simplement pour y aller. Bon. Alors que d'autres mondes sont possibles, c'est l'idée qu'il faut explorer, parce qu'on sait qu'on n'aime pas ce monde-là, qu'il est injuste, qu'il écrase les individualités, qu'il met en danger la planète. Mais comment sera le monde autre ? Il faut explorer d'autres mondes possibles. Donc les deux coordonnées de la galaxie altermondialiste aujourd'hui, c'est ça. Le monde n'est pas une marchandise, d'autres mondes sont possibles. C'est ça qui fixe, disons, le cadre. Cette question peut déboucher sur une question existentielle, pas une question collective, simplement, qui dote même l'émancipation altermondialiste d'une composante spirituelle. C'est quelque chose qu'a bien vu un philosophe de l'économie belge qui s'appelle Christian Ansperger, qui est auteur d'un livre datant de 2005 qui s'appelle « Critique de l'existence capitaliste ». Et il met en évidence combien le capitalisme, ce n'est pas simplement quelque chose qui produit des inégalités sociales. Oui, c'est quelque chose qui produit des inégalités sociales, mais c'est quelque chose qui brouille le sens de la vie, qui a une dimension existentielle. Si on suit Ansperger, une des sources des dégâts causés par le capitalisme sur nos individualités, ça serait que le capitalisme essaye de nier la finitude humaine, ce qu'il appelle la finitude humaine. Alors c'est quoi la finitude humaine ? C'est le fait que chaque être humain a à la fois des limites corporelles et mortelles, bon, et qu'il aura une fin. Bon. Et la course sans fin à la consommation entretient l'illusion qu'on pourrait échapper à la finitude humaine. L'oubli de la finitude humaine. Mais en même temps, cette course sans fin à la consommation entretient nos angoisses, ou plutôt de les calmer. C'est-à-dire qu'il prétend colmater les brèches existentielles du sens de sa vie, en même temps, il développe les angoisses. Et le capitalisme nous rend inégaux là-dedans, parce qu'il produit l'injustice sociale. C'est-à-dire que les privilégiés cherchent à nier encore plus leur finitude en développant leur richesse. Quand on entend parler de grands capitalistes qui ont 10, 15, 20, 30, 40 maisons, je ne sais plus, il y en a entendu 50, 60 maisons, alors je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir 50 maisons, bon, 60 maisons, 70 maisons, etc. Bon. Dans cette course où on nie sa propre finitude, bon. Parce que en même temps, ça affecte tout le monde, mais évidemment, dans ce marathon existentiel, on n'est pas égaux. Et donc, par rapport à ça, un autre monde possible, ce serait évidemment un monde qui répartit autrement les richesses, mais c'est aussi un monde dans une dimension spirituelle qui offrirait à chacun des possibilités partagées d'affirmer sa finitude, de l'assumer, mais pas de la nier, et pas de l'oublier. Donc c'est une des grandes pistes de ce travail qui est passé inaperçu de Ansperger, c'est de dire qu'un monde non capitaliste, c'est une autre répartition des richesses, mais aussi une autre répartition des moyens pour assumer chacun sa propre finitude, au lieu de la nier dans la course à la consommation, et à l'accumulation des richesses, qui permettent pour chacun d'alléger le poids de la finitude de chacun, afin que chacun puisse s'assumer comme mortel. Donc on voit bien que le capitalisme pose pas simplement des questions politiques, mais le capitalisme pose des questions existentielles sur le sens de la vie de chacun. Et il a un certain type de traitement de cette question. Alors, c'est un problème justement que reprend dans un registre proprement artistique Kenny Arcana, puisque dans le texte qu'on va entendre maintenant, elle lance « La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin ou une quête. » Et elle ajoute peu après « La vraie révolution sera le changement de nos êtres. » La vraie révolution sera le changement de nos êtres. C'est-à-dire qu'elle affiche que dans ce refus du capitalisme, dans cette recherche de l'émancipation, il y a une dimension existentielle. Et donc on peut lancer la dernière chanson.
Tu sais ce que c'est ? C'est l'humanité qui ressort mal. L'humanité.
Ce qui nous tient et ce qui doit nous tenir avant tout, c'est l'amour. C'est la chose la plus importante au monde.
La rage, elle vient de l'amour, frère. Parce que sans amour, il n'y a pas la rage.
On se bat parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime notre terre.
On a énormément de choses en nous, on a une force.
Et c'est comme ça qu'on pourra...
Pour que l'humanité, elle reprenne le dessus. Parce qu'on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu humain.
Prisonniers dans la peur qu'on nous inculque. Laisse-les nous mépriser, nous appeler. Je n'ai un culte, c'est la maladie du siècle. Dans le cœur des surins, les terriens sont en terreur. Ont enterré ce qu'ils faisaient de déshumains. Ça fait un bail qu'on a tout balancé dans la fosse. Comment a-t-on pu zapper que l'amour était le moteur de notre propre force? On se renferme tous malheureux dans nos petites cases. La vie se cache dans chaque recoin, même des plus petites phrases. Veille sur ton cœur, il peut vite glacer de froid. Faut garder sa vigilance pour ne pas s'éloigner de soi. Chaque instant est une prière, prends soin de tes pensées. Demeure où les sensés pour ne plus broyer de la pierre. Le système est un mirage, les barrières illusoires. Les angoisses sont des vagues auxquelles Babylone veut nous faire croire. Le cœur détaché, tout commence dans la tête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. Les barrières sont dans nos têtes, les limites dans nos cœurs. Le travail est profond pour s'émanciper de l'horreur. Après des siècles d'aliénation, après des siècles d'aberration, on s'est construit nos propres prisons. Enfermés dans les forteresses de nos égos, la vie ne passe plus à travers. On sent mourir, on sort l'écran, on s'entretue et on s'oublie. En accusant autrui, on brûle nos rêves de notre plein gré pour libérer nos cris de misome. On a des clous au bout de nos ailes. La vraie révolution sera le changement de nos êtres. La force est en nous-mêmes, secret de la création. Entends les anges à ton oreille, te souffler la mission. Cherche la pureté en ton cœur, vu que l'horreur nous encercle. Trésor enfoui, secret de nos ancêtres. Mémoire oubliée dans un coin d'évolution. Enfant de l'humanité, on porte en nous la solution. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. La machine nous a appris à ne pas sourire dans la rue, à ne pas voir le pauvre qui crève en demandant de l'aide. Elle nous a enseigné que l'amour était une faiblesse, tout comme les larmes et que les faiblesses n'ont pas de place dans leur système. Violente, elle nous a formés à encaisser les coups, clamant le chacun pour soi et le diable pour tous. Elle nous a appris à ne pas regarder son voisin, à part pour comparer et puis pour jalouser son pain. Elle nous a dénaturés jusqu'à ce qu'on banalise le mal, qu'on glorifie le diable et qu'on en sous-estime le drame. Elle nous a convaincus que pour vivre à Babylone, il ne fallait plus être humain, mais être un robot ou un clone. Elle a fait de nous ses enfants, redessinés à son image, aussi gris que l'ensemble de son rivage. Enfant de Dieu, l'amour et la mémoire seront nos armes sur les chemins du retour vers la vérité de nos âmes. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain.